13h30, vous écoutez en effet France Culture et c'est le moment de retrouver les pieds sur terre pour l'épilogue de notre série de Belleville à Wenzhou. Aujourd'hui, retour à Paris avec l'histoire d'A Lei, qui n'est pas une Wenzhou, mais une Dongbei.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Bougez pas, attention !
Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlund
et Jérôme Sandler.
Vous n'appelez pas, c'est des manifestants, mais la rue est envahie contre moi.
Et pourquoi on le ferait pas plus souvent? On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour.
Des fois, des gens qui appellent à l'aide et personne ne vient. Mais si on crie au feu, les gens, ils n'ont pas peur de se faire agresser. Ils se disent, ah ben, je vais peut-être aller voir, peut-être que je peux aider quelqu'un. Et dans ces cas-là, la personne, elle vient plus vers nous quand on crie au feu que quand on appelle à l'aide.
Au feu.
Et là, les gens, ils vont venir, ils ont moins peur pour venir.
Cela se passe à Paris, entre Belleville et Strasbourg, Saint-Denis, mais la plupart d'entre elles viennent de la province de Dongbei, dans le nord-est de la Chine. Les premières de ces prostituées chinoises sont arrivées en France il y a une dizaine d'années. Et elles sont aujourd'hui plusieurs centaines à sillonner les rues la nuit à la recherche d'un client. Touchées par la loi de 2003 sur le racolage passif, elles sont victimes de violences et redoutent les arrestations abusives car la plupart d'entre elles sont sans papier. Contraintes de se cacher, elles se tiennent à l'écart des structures médicales et des réseaux associatifs. Pour leur venir en aide, le Lotus Bus, créé en 2004 par Médecins du Monde, vient à leur rencontre dans les quartiers où elles travaillent. Ici, on parle mandarin et français. Au milieu des fleurs en papier rose et des porte-bonheur, des prospectus et des sachets de gel lubrifiant, c'est là que Colette, Rose ou Ching, bénévole ou salarié, tous sinophones, proposent préservatifs, conseils et écoute à celles qui sont descendu à la mer. Descendre à la mer, l'expression date des années 80 lorsque la Chine ouvre son marché économique aux activités commerciales et libérales et amorce le développement de ses provinces côtières. Pour les Chinois, cela veut donc dire alors lancer son entreprise, mais par extension, pour ces femmes qui arpentent Belleville, cela signifie aujourd'hui se prostituer. Pour l'heure donc, nous avons rendez-vous avec Tim, coordinateur du projet Lotus Bus et interprète à 16h. Avec lui, A Lei, son amie, une habituée du bus qui raconte son parcours de Dongbei à la Porte Dorée, aujourd'hui dans les pieds sur terre et jusqu'à 14h sur France Culture, évidemment.
Ce qui va bien, c'est un bras.
Très bien.
On est devant le bus de Médecins du Monde qui est décoré avec des graffitis un peu asiatiques sur les côtés. Et il y a une vingtaine de femmes qui attendent devant le bus de pouvoir être servies en préservatifs et conseils médicaux.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien ?
Oui.
Donc il faut bien faire attention que quand on use les préservatifs King Size, que c'est bien... Un homme avec un sexe de taille large, parce que sinon ça peut plus facilement glisser et c'est plus dangereux.
Vous, Colette, vous préparez les petits sachets à l'arrière du camion.
Voilà, parce que ce soir, il y a encore une grosse tournée.
Et comme là, on est trois, qu'il n'y a pas trop, trop de monde, si on peut se dégager pour préparer pour ce soir, on le fait, quoi.
Et vous, vous êtes infirmière ?
Oui, je suis infirmière à la retraite.
Et comment ça se fait ? Vous êtes sinophone aussi ?
Moi, j'ai travaillé en Chine, comme dans le planning familial. Voilà, donc à la retraite, je me suis remise au chinois et voilà, j'arrive à communiquer un peu.
Donc là, vous leur mettez quoi ? Dans un sachet que
dans
vous leur distribuez ?
On met 24 préservatifs, plus un tube de gel.
C'est un lubrifiant.
Voilà, un lubrifiant. C'est aperçu qu'à côté d'un travail de prévention, sida, maladie, etc., il y avait un travail énorme pour leur faire connaître leurs droits. Elles étaient souvent agressées. Parfois, elles vivaient ça comme on le mérite, puisque ce qu'on fait, c'est pas bien, tant pis pour nous. Enfin, elles se victimisaient, alors que c'est pas parce qu'elles font ce travail qu'elles ont accepté d'être violentées. Mais c'est un travail de longue haleine.
Oui.
Oui, je suis à peu près sûre d'avoir compris, mais je voudrais être sûre parce qu'elle m'a parlé d'un problème de rupture préservatif. Apparemment, il n'y a pas de danger, mais j'ai un petit doute d'avoir complètement compris. Il faut mieux que tu l'écoutes.
Oui, mais
En fait, ce qui s'est passé, au début, ils portaient un préservatif, ils ont commencé à avoir un rapport sexuel. Et tout d'un coup, elle a senti que c'était la sensation n'était pas pareille, elle a touché son sexe avec ses doigts et elle s'est aperçue qu'il portait plus de préservatif. Après, l'homme, il a donné l'impression qu'il était surprise de voir le préservatif par terre, qu'il n'a pas fait exprès, que lui aussi, il avait peur d'attraper des maladies. Oui. À mon avis personnel, c'est assez rare qu'un préservatif tombe toute seule. À mon avis, ce serait plus de la malveillance de la part du client qui arrivait peut-être pas à éjaculer qu'il a enlevé le préservatif.
J'avais pas compris, moi, éjaculer.
C'est quand même un vocabulaire de vie longue. C'est ce qu'on apprend.
Pénis en érection, tout, je sais, mais éjaculer.
À mon avis, il y a quand même un risque. Donc le mieux serait de lui proposer d'aller à l'hôpital. Voilà, le médecin des urgences verra bien en fonction de la situation qu'est-ce qu'il faut faire.
Non, c'est clair.
Moi, je suggère qu'on, dans ce cas-là, on part et je vais à l'hôpital avec le camion.
Alors la difficulté pour elle, ça va être qu'elle n'a pas de couverture maladie, donc il va falloir négocier aux urgences pour qu'elle puisse être reçue. Et elle parle pas du tout français, donc il va falloir faire l'interprétariat aussi.
Elle a peur en fait qu'elle va apparaître à la télé.
Pourquoi elle a peur d'apparaître à la télé ?
Bien sûr, elle a peur parce que toutes ses copines ou sa famille pourraient le voir. Si jamais ça savait que je faisais ça, je serais fini. On va aller voir Alain maintenant. C'est une personne que j'ai rencontrée sur le bus dans le 13e arrondissement, alors qu'elle venait de commencer à se prostituer. Quelqu'un que je connais bien, et les femmes qu'on rencontre, en général, elles nous font confiance.
Par contre, quand il s'agit de parler avec des journalistes ou des personnes de l'extérieur, là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que leur première peur, c'est que ça se sache dans leur entourage, surtout dans leur famille en Chine, qu'elles font cette activité ici en France.
Et Alei, c'est son vrai nom ?
Alei, non, ce n'est pas son vrai nom, c'est un surnom qu'elle s'est donné. Ça veut dire bourgeon, en fait, en chinois. Oui, donc on va monter à l'étage et on va la rencontrer là-haut. Je m'appelle Zhang Guihua, je suis chinoise, j'ai 47 ans.
Je ne sais pas si on peut donner votre vrai nom dans l'émission de radio, vous avez donné votre vrai nom.
Oui.
Oui, j'ai donné mon vrai nom. Ça me dérange pas parce que je me dis qu'aujourd'hui j'ai envie de faire face à cette histoire et voilà, je suis déjà arrivé à ce point que j'ai pas envie de cacher ce qui m'est arrivé. J'ai deux enfants, j'ai une fille et un garçon, je suis divorcé. Donc, je viens de la ville de Nanchang, dans la province de Jiangxi. Dans cet endroit, j'avais ouvert un petit salon de beauté. Je suis venu en France le 15 août 2008.
Donc, à 45 ans, vous décidez de partir de Chine pour venir ici.
C'est ça ? Oui.
En fait, quand j'étais patronne du salon de beauté, j'avais un revenu assez important. Mais qu'est-ce qui a changé dans ma vie ? La première changement, c'est que mon mari est parti avec notre femme. Et mon mari, d'abord, c'était mon premier amour. Je pensais que ce serait mon seul amour et le seul homme dans ma vie. Je n'acceptais pas qu'il soit parti avec notre femme. D'autre part, mon entreprise, il y a eu un problème avec une de mes clientes qui a eu une réaction allergique sur le visage par rapport à un des produits. Et cet événement a été rendu public dans les médias locaux et mon entreprise a fait faillite. Et en plus, j'ai deux enfants et je paye aussi leurs frais d'études et ça c'est très très cher. Les études en Chine c'est très très cher. On m'avait dit qu'en France, c'était comme un champ en friche. C'est-à-dire, si on pouvait planter quelque chose dans ce champ, on pourrait avoir une bonne récolte. Il y a beaucoup de possibilités d'évoluer en France. Et c'est pour ça que, petit à petit, j'ai commencé à avoir cette rêve de venir en France. Je me suis aperçu très vite que la France ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Et je me suis très vite buté à deux énormes obstacles. La première obstacle, c'est la langue. Je ne parlais pas français, je n'arrivais pas à communiquer avec les gens. Et le deuxième obstacle, c'est que je n'ai pas de papier. Et ça fait que je ne pouvais pas atteindre mes rêves.
C'est ça. Quand je...
En fait, j'ai travaillé comme nounou dans des familles chinoises en France. En fait, c'est des familles qui ont déjà quitté la Chine il y a déjà longtemps et qui ont déjà plus l'habitude de vie chinoise. Elles ont adopté la vie française. Et en plus, c'est des personnes qui n'ont pas un niveau d'éducation très élevé. C'est des personnes sans culture.
Donc en faisant ce travail, c'était vraiment très très difficile. J'ai subi pas mal d'humiliations, de difficultés. C'était très dégradant. Et il y a une phrase en Chine qui dit que quand on est dans une situation difficile, on doit supporter. Donc c'est ce que j'ai fait. Par exemple, je travaillais 12 heures par jour, tous les jours, et mon salaire mensuel était 500 euros. En plus, le travail était très dur. Par exemple, ses familles ne croyaient pas à la machine à laver, donc j'étais obligé de laver tous les habits à la main. En plus, quand je lavais le sol, ils n'acceptaient pas que je lave le sol avec un serpillière. Il fallait que je me mette à quatre pattes pour laver avec les mains. Mais bon, que le travail était dur, ça je peux accepter. Je suis quelqu'un qui peut accepter beaucoup de dureté. Mais ce qui était le plus difficile pour moi et ce qui faisait que je ne pouvais pas supporter ce travail, c'était le regard en fait, de mes patrons qui étaient très, très irrespectueux. Donc, j'ai trouvé que c'était très difficile pour moi de continuer de faire nounou. C'était surtout par rapport à mes dettes en Chine qui étaient très élevées. Et l'argent que j'ai gagné, en fait, même si je faisais nounou pendant 10 ans, j'aurais du mal à rembourser mes dettes en Chine. C'est à cause de ça qu'il y a une amie qui m'a suggéré de descendre à la mer. Elle m'a dit, voilà, tu as des grandes dettes, en plus tu es divorcé, tu devrais descendre à la mer, comme ça tu pourras gagner de l'argent. Donc, descendre à la mer, ça veut dire être prostituée. Donc, au début, c'est une copine qui m'a présenté une autre femme qui se prostituait, et cette autre femme m'a amené un soir à la Porte Dorée. Et à ce moment-là, je savais dire à peine 40 euros, 50 euros, 60 euros, quelques autres petits mots. Et en plus, j'avais peur. Et un soir, je me souviens, c'était un mardi soir, j'étais dans le 13e, et une de mes copines m'a parlé du Lotus Bus. Et là, j'ai pu faire connaissance avec certaines personnes du bus qui sont ensuite devenues très proches de moi, notamment une personne qui s'appelle Tim, qui m'a vraiment apporté beaucoup d'aide depuis. J'étais plus sûr de moi-même. Et donc j'ai continué à travailler à la Porte Dorée jusqu'à un moment où il y a eu une répression particulièrement importante, où j'ai dû arrêter. Quand je parle de cette période, de ces événements, je me sens très mal. C'était vraiment un moment très, très difficile. Je me souviens, la première fois que j'étais arrêté, c'était le 24 décembre, c'est-à-dire le veille de Noël. Et ce jour-là, pour moi, ce n'était pas du tout un jour serein. Je marchais dans la rue, j'étais pas du tout en train de racoler. Il y avait une voiture de police qui s'est arrêtée à côté de moi et qui ont demandé de voir mes papiers. Donc j'ai sorti mon récépissé de demande d'asile. Je pensais qu'en voyant ça, ils allaient me laisser repartir. Et en fait, non, ils m'ont arrêté, ils m'ont ramené au commissariat. On nous a dit que c'était désormais interdit pour les femmes chinoises de venir dans le 12e. On nous a dit ça, on ne comprenait pas pourquoi nous, les femmes chinoises, on ne pouvait plus venir dans le 12e arrondissement.
Ce
n'est pas écrit sur mon visage, sur mes joues que je suis prostituée. Je suis juste une femme. Et c'est ça que je trouvais vraiment injuste. Parce que je me disais, j'ai même pas le droit de marcher dans la rue, j'ai plus la liberté de circulation. Et en plus, j'ai remarqué qu'à cause de cette répression, la situation s'est vraiment très très dégradée. Par exemple, quand on montait dans la voiture d'un client et après on s'aperçoit que c'est quelqu'un de mal intentionné qui est méchant. On a envie de descendre de sa voiture et le client, il utilise le prétexte de la police pour nous faire peur. Il ne faut pas que tu descendes de la voiture, je vais appeler la police. Et les méchants, les agresseurs avaient l'impression que la police était de leur côté et pas de notre. C'est à cause de ça qu'il y a eu véritablement une augmentation des violences et des clients qui profitaient de cette situation pour être agressifs, pour profiter de nous.
Vous avez vécu des agressions de clients ?
Oui, ça m'est arrivé une fois de rencontrer un homme méchant. D'abord, je pensais que c'était un client, j'avais monté dans sa voiture. Et après, petit à petit, à travers ses paroles, sa manière de parler, ses gestes, et petit à petit, je commence à m'en douter que c'était quelqu'un mal intentionné. Par exemple, moi je lui avais dit où il fallait aller, mais en fait je me suis aperçu qu'il ne se dirigeait pas vers l'endroit que je lui avais indiqué, mais vers un autre endroit. Et je lui ai dit arrêtez la voiture. À ce moment-là, j'avais déjà avancé un peu, mon français était déjà un peu amélioré. Donc je lui ai dit arrêtez la voiture, et il m'a dit non, je ne peux pas arrêter, il y a la police. Moi je me suis dit, je m'en fous de la police, je veux descendre de sa voiture, mais lui il ne voulait pas arrêter. Donc il m'a ramené jusque dans cet endroit. Et arrivé là, je me suis dit, bon, le mieux, ça va être d'accepter d'avoir un rapport avec lui. Comme ça, je peux espérer éviter d'être violenté. Et j'espère qu'il me ramènera ensuite à la porte dorée. Donc, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Mais ça ne s'est pas passé comme je voulais. En fait, lui, d'abord, il ne voulait pas utiliser un préservatif. Et deuxièmement, il voulait me sodomiser. Et ça, c'est deux choses que j'accepterai pas. Que je sois mort ou vivant, je n'accepterai jamais ces deux choses-là. Donc je me suis dit, bon, si je dois mourir, qu'il meure avec moi. Je suis quand même resté calme, je lui ai demandé de commencer à enlever ses pantalons. J'ai utilisé toutes mes forces et je lui ai serré le sexe. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais en fait, lui, il avait fermé la porte de l'intérieur de manière à ce que moi, je ne pouvais pas sortir. Après que son douleur est passée, il est devenu complètement fou et comme un mauvais esprit. Et il m'a pris la gorge entre ses mains et il m'a secoué. Moi, j'ai commencé à crier au secours, au secours, au secours. Et il a dit arrêtez de crier, arrêtez de crier. Donc, moi, je suis d'accord pour utiliser un préservatif et je suis d'accord pour ne pas pratiquer la sodomie.
De toute façon, j'avais pas le choix, je pouvais pas sortir de la voiture. En plus, j'avais peur qu'ils volent l'argent que j'avais sur moi. Donc j'ai accepté. Après le rapport, je lui ai dit que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Il m'a ouvert la porte et dans un seul geste, j'ai récupéré toutes mes affaires et j'ai couru en criant « au secours, au secours ». À ce moment-là, il y a une voiture qui passait, qui s'est arrêtée. Après cet événement, j'ai plus vraiment eu le même courage ou la même envie de continuer à faire ce travail.
Et depuis, vous faites comment pour vivre ?
J'ai un peu d'argent qui m'est donné parce que je suis demandeur d'asile, j'ai une petite allocation. Souvent, c'est des amis qui me trouvent des clients pour du massage. Et enfin, je fais des heures de ménage où je travaille comme nounou.
Comme nounou.
Ouais. Et mon idée en ce moment, c'est de continuer à faire ça jusqu'à ce que mes dettes soient complètement remboursées pour pouvoir entrer en Chine. Plus, mes enfants maintenant me disent de rentrer. Ils souhaiteraient que je rentre et tous les deux ont commencé à travailler. Et me disent, maman, pourquoi tu ne reviens pas en Chine ? Tout nous manque. Mes enfants savent que j'ai dû traverser beaucoup de difficultés. Mais que j'ai tout fait pour eux, que je donnerai tout ce que j'ai pour eux. Ça, ils savaient ça, ça me rassure qu'ils savent ça. Je disais que c'était dur pour moi de traduire parce qu'elle parle un chinois, c'est très beau. Quand elle parle, c'est très beau. Donc j'espère que je fais honneur à la beauté de sa parole.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre à Paris avec les femmes du Lotus Bus. Reportage d'Inès Leroux, réalisé par Nicolas Berger. Traduction Tim Lester, mixage Michel Mestre, attaché de production Sandrine Chaperon. Merci à Colette, à Rose, à Ching, à Pénélope, à Nadine du Bus des Femmes, à Roger Quéré. Bien sûr, aux femmes du Lotus Bleu et à Aley. Réactions, suggestions, idées, témoignages, tout ce que vous voulez savoir ou nous dire, c'est sur notre site internet franceculture.fr à la rubrique Les Pieds sur Terre. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment sur le réseau social qui commence par un F mais que nous n'avons pas le droit de citer à l'antenne.